Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal au Sud Kivu, l'archevêque de Bukavu appelle les Congolais à l'unité pour résister à l'ennemi et défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Message lancé ce jeudi 1er décembre à Bukavu à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FRDC. Nous sommes le 1er décembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Parmi les moyens de prévention contre cette maladie, on compte le préservatif. Qu'en est-il de son utilisation chez les jeunes à Kinshasa? Réponse dans ce journal. Et toujours à propos de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida en RDC, la grande cérémonie commémorative a eu lieu à Kolwezi sous le thème « Poussons pour l'égalité et l'égalité maintenant ». Nous ferons le point de cette maladie en RDC avec notre invité, le docteur Aimé Mboyo, directeur national du programme national de lutte contre le SIDA, PEN-NLS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sud Kivu, l'archevêque de Bukavu appelle les Congolais à l'unité pour résister à l'ennemi et défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Message lancé ce jeudi 1er décembre à Bukavu à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FARDC. Il s'est agi également pour Mgr François-Xavier Maroy de condamner l'agression rwandaise et en appeler à la responsabilité de la communauté internationale. Un extrait du mémorandum de l'église catholique de Bukavu dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamejo Kabedi.
La complaisance de la communauté internationale engage la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de la paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple, unis et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Ne laissons pas balkaniser la République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés.
Et puis le facilitateur de l'EAC pour le processus de paix dans l'est de la RDC a reçu hier tous les groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, présents pour parler de Nairobi au Kenya. Après près de 10 heures de rencontres marathon, Uhuru Kenyatta a déclaré que tous ont accepté de déposer les armes. Mais cependant, ces groupes armés ont fait des propositions pour sortir de la crise dans l'est de la RDC. Les détails avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papi Mukeba.
Les groupes armés Codeco de l'Ituri a dit être prêt à déposer les armes. Il a soumis aux facilitateurs de l'EAC et au gouvernement congolais la demande de prendre les mesures nécessaires pour demander aux groupes armés Zaïre de faire de même et de cesser d'attaquer ses positions. Les groupes armés Zaïre n'est pas pourtant représenté à Nairobi. De leur côté, les groupes armés du Maniema se disent également prêts à déposer les armes, mais ils souhaitent le respect des accords signés entre les communautés, les gouvernements et l'entreprise Banro sur l'exploitation minière dans cette province. Ces dits Tanganyika se disent aussi prêts à déposer les armes, mais sollicitent la sécurité de la communauté Toa. Les groupes armés du Sud Kivu ont exprimé leur volonté de mettre fin au combat. Certains ont proposé la reprise des pourparlers entre les communautés Bembe et Banyamulenge, et d'autres le désarmement de tous les groupes armés étrangers actifs dans la province. Les groupes armés du Nord Kivu, les plus représentés dans ces processus, se disent également prêts à déposer les armes. Mais ils ont exprimé aux facilitateurs les besoins de désarmer les FDLR, les ADF et les M23. Ils ont aussi sollicité leur intégration au sein des services de sécurité, la libération de leurs prisonniers et l'amnistie de leurs membres recherchés par la justice. Nairobi, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu, l'usage de la force est recommandé contre tout groupe armé ou groupe terroriste réfractaire au processus de paix en cours de Luanda et de Nairobi. Cette option a été levée hier mercredi par les experts de défense des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Durant 3 jours de travaux, cette rencontre a regroupé les experts de l'organisation sous-régionale avec le commandement des forces de la MONUSCO du lundi à hier mercredi à Goma. Bernard Nyangui nous fait la synthèse de ces travaux.
Organisés sous l'égide des chefs d'état-major généraux des pays membres de l'EAC, ces travaux ont réuni le commandement des forces de la MONUSCO, l'état-major général des FARDC, le commandement de la force régionale de l'EAC et le mécanisme conjoint de vérification de l'EAC et de la CIRGL. Dans un extrait du communiqué final qu'il a rendu public, le gouverneur militaire du Nord Kivu se réjouit de l'élaboration d'un cadre de collaboration et de coordination des offensives conjointes FARDC, forces de l'EAC et la MONUSCO contre les groupes réfractaires au processus de Nairobi et de Luanda, lieutenant-général Constant Dima.
Le groupe de travail aboutit à l'élaboration d'un arrangement technique, définit le cadre de collaboration et de coordination entre la force régionale et la MONUSCO. En attendant le nouveau mandat de cette dernière, l'arrangement technique a mentionné l'option de l'usage de la force contre tout groupe armé ou terroriste réfractaire à la décision des chefs d'État de la région.
Ce document de cadre de collaboration sera soumis à la décision des chefs d'État membres de l'EAC. Mais en attendant, les experts ont décidé que la force régionale se déploie dès cette semaine déjà sur le front contre la rébellion du 23 à Kibumba aux côtés des FARDC.
Le processus de Nairobi 3 doit aboutir à un engagement ferme et sincère des groupes armés de l'Ituri pour la cessation définitive des hostilités dans cette province. C'est le coordonnateur de la société civile de l'Ituri qui l'a dit ce jeudi au cours d'un point de presse à Bunia. Les données Lossa précisent que les groupes armés ont intensifié les violences contre la population dans plusieurs localités pendant les deux premières assises de Nairobi. Il se félicite cette fois-ci de la participation de la majorité des milices actives de l'Ituri, dont la CODECO qui n'avait pas assisté aux précédentes rencontres, ce qui augure de l'espoir pour une paix durable dans cette province qui compte plus d'un million de déplacés qui veulent regagner leur village d'origine. Il a été joint par Isaac Remuyopi.
Nos regards sont tournés vers les activités de Nairobi, duquel nous voulons réellement la paix. Alors une paix réelle, un engagement sincère. Ils ne sont pas allés à promenade, ils sont allés justement pour partager leurs problèmes, mais aussi ils doivent prendre un engagement qu'ils vont respecter. On a déjà des expériences malheureuses dans les états passés, on ne veut pas que cela continue. Ça veut dire qu'après Nairobi 1 et Nairobi 2, les massacres ont continué, les pillages des biens n'ont pas cessé, donc ça n'a pas arrêté à ce que cette pratique continue. Mais nous voulons que cette fois-ci, qu'on ne puisse plus attendre des vols de bétail, pillages, tueries, on ne veut plus attendre. Nous voulons qu'après Nairobi 3, qu'on ait vraiment la calmie totale sur l'ensemble des provinces, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un état de droit, qu'il y ait d'autres personnes qui détiennent les armes, même sous l'état de siège.
Signalons que parmi les groupes armés actifs en Ituri, les groupes d'autodéfense Zaïre et les groupuscules des Mai Mai dans les territoires de Mambasa et d'Irumu ne sont pas représentés à ces travaux de Nairobi 3. Je venais de le dire au sommaire, nous sommes le 1er décembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Parmi les moyens de prévention contre cette maladie, on compte les préservatifs. Qu'en est-il de l'utilisation de ces moyens de protection chez les jeunes à Kinshasa? Élément de réponse dans ce reportage de Pauline Massirika.
Les jeunes rencontrés sont unanimes, le préservatif est important dans la prévention du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles. Mis de côté ceux qui disent observer l'abstinence, les jeunes sont divisés quant à son utilisation. Pour certains, le préservatif gâche le plaisir. C'est ainsi qu'ils ont fini par abandonner son usage. D'autres affirment qu'il suffit d'en choisir un de bonne qualité. Nous avons aussi une autre catégorie qui n'est pas à en faire usage parce que marié ou fidèle à leur conjoint et vice-versa.
Si tu l'utilises, tu peux continuer. Nous sommes nombreux qui ne l'utilisons pas. C'est comme moi.
Les préservatifs importés sont de bonne qualité. La majeure partie des préservatifs que nous avons ici, c'est trop pendant l'action. Même dans la vente, il y a une différence de prix. C'est là, les sachets coûtent au moins 10 000 francs. Et ce que nous achetons ici, si c'est 500 francs.
Pour Julice Bongongo, analyste de programme à l'ONG DKT, active dans la santé productive, le préservatif bien utilisé protège et permet d'éviter des grossesses non désirées. Mais ce sont plus les hommes qui y ont recours.
Aimer, c'est aussi savoir se protéger. Si j'aime mon partenaire et que je sais que je suis dans une période où je peux avoir un bébé et qu'on n'est pas encore prêt pour avoir un bébé, on utilise un préservatif. Si j'ai des relations sexuelles et que je ne suis pas sûre de mon partenaire, on se protège.
Cette année, le slogan est égalité maintenant.
Des manifestations des militants de l'UDPS, Fédération Rurale du Tanganyika, ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs territoires de cette province. Ils contestent les récentes nominations des nouveaux acteurs dans la petite territoriale. Se confiant ce jeudi à Radio Kapi, l'un des vice-présidents de l'UDPS, Fédération Rurale du Tanganyika, s'indigne du fait qu'aucun membre n'a été nommé comme administrateur dans les six territoires de la province. Des détails avec Paul Mounanga.
L'UDPS, Fédération Rurale du Tanganyika, conteste les nominations survenues le vendredi dernier dans la petite territoriale et particulièrement dans les six territoires de la province du Tanganyika. Pour les responsables de ces partis politiques, la Fédération Rurale de l'UDPS est oubliée. Aucun membre n'a été nommé dans les territoires. À cet effet, des manifestations des militants de l'UDPS ont été organisées notamment dans les territoires de Moba, Kongolo, Manono et dans la cité de Kabimba. Pour le troisième vice-président de l'UDPS, Fédération Rurale du Tanganyika, les combattants de ces partis désapprouvent ces nominations. James Saloumou.
Les membres de la fédération, les combattants de l'UDPS sont contre ces nominations. Ils ont constaté dans ces nominations seulement les membres d'une association qui s'appelle les Dynamiques Glenimbo. Donc ces combattants ou soit ces administrateurs de territoire sont proposés par les gouverneurs de la province, Gilles Ngungwa et son ministre de l'Intérieur. Alors au niveau de Kinshasa, ils n'ont pas tenu compte, soit ils ne connaissaient pas s'il y avait vraiment les membres de l'UDPS.
Contacté, le ministre de l'Intérieur du Tanganyika dit qu'il n'est pas concerné par ces nominations. Tous nos efforts pour atteindre la gouverneure du Tanganyika et les responsables de l'ONG Dynamique Guilain-Yembo sont restés vains. Kalemi, Pole Mounanga, Radio Okapi.
L'identification et l'enrôlement des électeurs dans un délai de 90 jours, l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers communaux font partie des actions courageuses et ambitieuses du calendrier électoral publié par la CENI. C'est ce qu'estime la synergie des missions d'observation des élections, une plateforme des organisations de la société civile congolaise. Dans une déclaration faite ce jeudi à Kinshasa, la CIMOCEL a néanmoins mis en évidence plusieurs défis que devrait relever le cycle électoral 2023. Un extrait de la déclaration de CIMOCEL, faite par son donateur, Maître Patrick Ntambwengoy, au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Nous avons le défi de la périodicité, qui est la capacité à tenir des élections régulières qui respectent les délais fixés par la Constitution. Elle répond au défi de mettre fin au système de glissement. Nous avons le défi d'une CENI professionnelle et engagée pour la consolidation de la démocratie. Le défi sécuritaire. Lors des derniers scrutins, les populations des territoires de Yumbi, Beni et Butembo n'avaient pas pu exercer leur droit de vote pour l'élection présidentielle pour cause notamment sécuritaire. À l'approche des scrutins de 2023, le contexte sécuritaire demeure préoccupant. Les Nations Unies estiment à plus de 5,6 millions de déplacés internes suite à l'occupation du Nord Kivu par les M23 appuyés par le Rwanda, aux activités de mouvements de terroristes en Ituri et à l'émergence des conflits communautaires dans une partie de Maïndombe, Kwilu et dans la périphérie de Kinshasa.
La déclaration de CIMOCEL se termine par une série de recommandations, notamment au gouvernement qui doit, entre autres, tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de permettre à tous les citoyens d'exercer leur devoir de vote. Enfin, plusieurs quartiers de la capitale congolaise restent méconnus. C'est le cas du quartier dit du 7 mai dans la commune de Kisenso. Ici, pas d'avenue asphaltée. L'eau de la régie des eaux et même le courant électrique est quasi inexistant. Les Quinois dans ce coin de la capitale vivent dans l'insécurité et sont menacés par les érosions. Plusieurs habitants sortent vers les autres communes pour leurs différentes activités. Innocent Fazili revient du quartier du 17 mai et voici son reportage.
Situé entre quatre quartiers, Ngomba, Mujinga, régie des eaux et missions, le quartier du 17 mai a 2,6 km² et compte 18 762 habitants. Il fait face à de nombreuses difficultés. Sur 40 de ses avenues, pas même une n'est construite et 5 d'entre elles sont menacées par des érosions. Par manque d'eau potable, les habitants se contentent d'utiliser celle des forages et des pluies. Nous y trouvons 4 écoles, dont l'école primaire et secondaire Sebeko. Témoignage d'un des habitants de ces coins.
Nous vivons aussi dans le noir. Les koulous, ou soit les bandits, là, profitent pendant qu'ils sont 19h, 20h, il y a vraiment l'insécurité. Puis chaque jour qu'il y a la pluie, l'érosion, il se transforme encore en catastrophe. Il y a des gens qui perdent leur parcelle. Il y a des gens donc qui pleurent à tout moment, surtout concernant des érosions.
D'après le chef adjoint du quartier, plusieurs parents n'ont pas assez de revenus, d'où les jeunes se mécomportent. Monsieur François Ndingambote propose
qu'il y ait les enclavements de notre commune, qu'on arrange les problèmes de l'ASNED, qu'on arrange les problèmes de la régie des eaux. Parce que quand toutes ces activités sont en marche, vous voyez que quand même il y a un souffle, je peux dire, de la part de la population.
Le quartier du 17 mai est l'un des 17 quartiers de la commune de Kisenso.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, réunion d'urgence, conférence de presse annulée, question au Parlement repoussée au lendemain de la publication d'un rapport parlementaire ouvrant la voie à une procédure de destitution du président pris dans un scandale. Un branle-bas de combat agité ce jeudi le sommet de l'État sud-africain. Le Kremlin a affirmé ce jeudi que la création d'un tribunal pour juger les actions de Moscou en Ukraine et notamment de possibles crimes de guerre n'aurait aucune légitimité. Bruxelles s'étant déclarée à la veille favorable à un tel projet. La création d'une telle instance a été réclamée à plusieurs reprises par le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que par les pays baltes, rapporte l'agence France Presse.
L'invité.
Nous sommes le 1er décembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En RDC, la grande cérémonie commémorative a eu lieu à Kolwezi sous le thème « Poussons pour l'égalité et l'égalité maintenant ». Nous faisons le point sur cette maladie en RDC avec notre invité, le docteur Aimé Mboyo, directeur national du programme national de lutte contre le sida, PNLS. Il s'entretient avec Innocent Fazili.
Docteur Aimé Mboyo, bonjour.
Bonjour mon frère.
Quel est l'état actuel du VIH-Sida en RDC ?
L'état actuel de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays est bon. Et ce qu'on peut relever, c'est que nous comptons plus de 540 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et face à cette situation, le gouvernement, avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux, je citais l'ONU-Sida, le PEPFAR, le Fonds mondial, la société civile, les secteurs privés, à travers le programme national de lutte contre le sida PNLS et les programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le sida, amène une riposte à tous les niveaux, une riposte pour, n'est-ce pas, mettre fin au sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Et pour cela, je voudrais juste épingler le fait que tous les efforts conjugués ont permis aujourd'hui de faire accéder, de mettre sous traitement antirétroviral, plus de 440 000 personnes vivant avec le VIH dans notre pays.
Et ici à Kinshasa, avez-vous des statistiques?
Au niveau de Kinshasa, il faut dire que le 30% des personnes qui sont mises sous traitement vivent, n'est-ce pas, dans la ville de Kinshasa.
Et actuellement, docteur, on parle de moins en moins du VIH-Sida. On parle beaucoup plus du Covid, du choléra et autres maladies. Qu'est-ce qui explique cela?
Mais disons que notre système de santé, face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de pandémies, dont la maladie à virus Ebola, le choléra, les monkeypox, et on se souvient, depuis 2020, la pandémie à Covid-19 a secoué et continue malheureusement de secouer notre système de santé. Nous parlons encore de la sixième vague, et cela a fait que la sensibilisation puisse, n'est-ce pas, faiblir vis-à-vis du VIH vis-à-vis du sida. Et donc, c'est quelque chose que nous devons très rapidement renforcer.
Docteur, actuellement, qu'est-ce qui est en train d'être fait en termes des mesures préventives, des prises en charge dans ces différentes formes, prises en charge médicales, psychologiques?
Mais disons que nous disposons d'une gamme variée d'interventions du VIH, donc de la distribution de préservatifs masculins et féminins, de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et post-exposition. Donc il y a une gamme tout à fait variée. Et de l'autre côté, pour la prise en charge, d'abord de tests de dépistage qui existent, nous disposons, n'est-ce pas, d'une gamme variée de médicaments, donc de antirétroviraux, qui sont de plus en plus efficaces, qui permettent donc de sauver des vies et de réduire très sensiblement la mortalité due à la pandémie du VIH.
Docteur, que peut-on comprendre par le thème de cette année?
Cette année 2022 est axée sur les inégalités. Bon, nous disons poussons pour l'égalité et égalité maintenant. L'objectif ultime est de pouvoir mettre fin au sida d'ici 2030. En tant que menace de santé publique. Mais il est enregistré en retard. Et l'une des principales causes, ce sont les inégalités de genre, les inégalités par rapport aux droits humains. Et c'est que nous devons lutter contre la discrimination, la stigmatisation à l'égard de personnes vivant avec le VIH, à l'égard de groupes de population à haut risque, pas de manque de financement pour que nous puissions renforcer et la prévention et la prise en charge d'en venir à bout avec le VIH.
Docteur Emembo, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité, le docteur Aimé Mboyo, directeur national du PNLS. Il s'entretenait depuis Colésie avec Innocent Fazili. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.